Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors, au programme de cette émission un peu raccourcie de Liberté sur Parole, une heure au lieu de deux, mais vous allez voir quelle heure, puisque notre invité, c'est Bertrand Hagenmüller. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et réalisateur et on va parler aujourd'hui d'un film qui sort mercredi, un très beau documentaire qui s'appelle Les Esprits Libres, qui a été tourné en Bretagne, espèce de vénard, dans un grand manoir, espèce de vénard, avec des gens super sympas et où il s'est passé une sorte de transformation. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont quitté un EHPAD un peu aseptisé sans doute, avec des gens en blouse blanche, avec des chambres peuplées de solitude, avec des repas à heure fixe et un peu aussi aseptisés, pour une sorte de vie de famille pendant 15 jours, où non seulement ils vivaient avec leurs soignants, mais qui étaient venus avec leurs enfants, leurs compagnons, qui étaient, voilà, c'était un peu une vie de famille, dans un cadre magnifique. Et en plus, ils avaient un objectif, c'était de créer un spectacle qui allait être offert à la population du coin après les 15 jours, donc, de résidence. Donc voilà, une super initiative que vous avez pu suivre caméra au point et qui donne ce beau document. Donc, qui sort mercredi, qui s'appelle Les Esprits Libres. Alors, ce titre, il est venu d'où ?
Alors, Les Esprits Libres, effectivement, c'est une bonne question. D'où vient le titre ? Déjà, juste pour reposer un tout petit peu les choses, c'est la troisième partie d'un triptyque sur l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. J'ai eu l'occasion de réaliser donc deux documentaires avant, un qui s'appelait Prendre soin, où j'ai filmé, donc il est sorti au cinéma il y a quelques années, en 2019, si ma mémoire est bonne, et où j'avais filmé, suivi des soignants, quatre soignants en unité Alzheimer. Donc là, c'est ce qui m'intéressait, c'était vraiment dans l'institution. Puis après, il y a eu la crise du Covid qui a donné lieu à un deuxième film, Première ligne, où une équipe avec qui j'étais en lien s'est filmée elle-même pendant toute cette période de crise du Covid. Et donc, la troisième partie, c'était un peu la question. Pour moi, c'était indispensable de faire un dernier volet qui pourrait donner un peu d'espoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Comment on peut penser différemment le soin? Et notamment le soin des personnes vulnérables en général, et en particulier des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Et donc, évidemment, le sujet de la liberté saute aux yeux. Évidemment, c'est à ça qu'on pense, parce que on pense beaucoup à la question de l'enfermement physique dans les EHPAD. Et on pense aussi à l'enfermement psychique. Et donc, évidemment, aborder le sujet plutôt sous la question de la liberté, c'est-à-dire comment on crée de la liberté ensemble, du possible, de l'ouvert. Ça, c'était très important. Et aussi, sans doute, esprit libre, c'est aussi un esprit qui peut être un esprit critique, et un esprit, on pourrait... Parfois, on parle avec la maladie d'Alzheimer de délire, etc. On y reviendra sans doute. On peut aussi l'envisager parfois sous l'angle au contraire de la liberté, c'est-à-dire de la capacité d'accueillir et de voir le monde différemment. Donc voilà, pourquoi l'esprit libre ?
Oui, et ben vous êtes d'autant le bienvenu dans Liberté sur Parole, parce que la liberté, c'est un peu notre obsession ici. Voilà, c'est tout à fait opportun que vous soyez là. Donc, comment vous avez rencontré cette équipe et d'où ils viennent, en fait ? Parce que j'ai lu dans le dossier de presse que c'était un EHPAD de la région parisienne qui décide comme ça d'aller en Bretagne. J'imagine que ça se monte pas quand même comme ça, une telle expérience avec des patients Alzheimer. Est-ce que déjà... c'était toute l'unité qui est venue, ou est-ce que c'est certains patients qui étaient en état peut-être de venir ou pas? Et puis, c'est un peu contre-intuitif, parce que dans la société actuelle, dans la manière qu'on a de regarder et de faire regarder les malades d'Alzheimer, c'est plutôt faut pas trop les changer de place, on les contraint beaucoup, à la fois dans l'espace et puis aussi peut-être avec des médicaments. Donc là, on est complètement dans quelque chose d'autre. Comment ça a été rendu possible? Est-ce que vous savez ça? Comment est-ce que vous avez accompagné ça avant de faire le film?
Oui, c'est ça qui était intéressant d'ailleurs, c'est que c'est toute une démarche. Le film, c'est une partie de cette démarche finalement. Donc, comme je le disais, il y a eu deux volets avant, deux films précédemment. Et donc, du coup, je connaissais cette équipe, puisqu'ils trouve que...
C'est la même équipe que vous avez filmé
voilà,
trois fois.
Pas exactement ouais. sur le premier film, mais en tout cas, voilà, c'est des gens que je connais très bien. Et
c'est vos acteurs préférés, en fait, c'est votre troupe, quoi.
Absolument, il y a quelque chose comme ça, une forme de troupe, il y a aussi une forme de complicité hein, qui s'est installée. Il faut de la confiance aussi pour monter ce genre.
Elle se voit un peu dans le film, hein, ouais. J'avoue.
Mais ouais, ça, c'était vraiment indispensable de partir voilà, avec des gens aussi qui avaient envie, d'audace, d'essayer autre chose. Voilà, et il se trouve que ce désir-là, moi, qui était très fort de faire un film sur qui pourrait incarner la question de qu'est-ce qui est possible et comment on peut montrer non seulement cette maladie différemment, mais aussi montrer une autre manière de penser le soin et le prendre soin. Donc ça, c'était très fort chez moi, j'avais envie de ça. Et en fait, c'est assez bien tombé puisqu'il y a cette équipe qui était déjà mobilisée, avec qui on avait cette complicité. Et puis, il y avait des ateliers théâtre qui se menaient régulièrement. Qui est animé par l'art thérapeute Emmanuela Barbone qu'on voit dans le film et avec des soignants notamment Kael, le psychologue du film, etc. Donc voilà, il faisait déjà ça et il le faisait déjà de manière très audacieuse puisqu'ils avaient monté des spectacles, ils partaient en tournée parfois, donc il y avait toute une dynamique déjà en place. Et donc mon désir d'incarner cette question de comment on peut montrer qu'un autre soin est possible et ces ateliers théâtre et qui étaient déjà en place, voilà, on s'est rencontrés dit bah, qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble, et ça a donné lieu à ce projet un peu fou de dire bah, on va partir 15 jours dans une grande maison ouverte pour non seulement vivre ensemble différemment, mais aussi créer ensemble et créer un spectacle.
Et ça a été facile au niveau, je sais pas moi, des ARS, de tout ce qui finance les EHPAD. Est-ce que enfin, il y a besoin d'autorisation ou pas? Parce que je me demande dans quelle mesure, en fait, ça m'a interrogé aussi sur dans quelle mesure on est libre de partir en vadrouille quand on est en charge de gens qui sont atteints de maladies ou qui sont en grande dépendance. Voilà, on peut faire ça, c'est possible en fait, parce que c'est aussi techniquement possible, vous l'avez prouvé. Donc ça peut donner des envies à d'autres.
Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que, alors, les ARS, pour certaines, ont même soutenu le film, hein. C'est ça qui est intéressant. Et j'ai l'impression qu'il y a des courants contraires, en fait. Et qu'il y a à la fois un courant très fort qui multiplie les protocoles, la surprotection. Moi, je dis souvent qu'on est obsédé par le fait de préserver la vie, parfois, aux dépens du vivant. C'est-à-dire, la question est plus comment on se sent vivant. Et pour se sentir vivant, évidemment, il faut prendre des risques. Il faut que la vie ait lieu dans toute sa plénitude. Et pour ça, il faut aussi accepter des prises de risques. Donc, il y a le courant très fort autour des protocoles, mais qui est aussi, je crois, lié à une demande aussi de la société. C'est-à-dire que quand on voit, et on a raison, on dénonce des choses dans les EHPAD, parfois, il faut les dénoncer sur des actes de maltraitance, mais la conséquence, souvent, c'est qu'au lieu de réfléchir à un monde plus ouvert, en fait, paradoxalement, on le referme encore plus. Au nom de la protection, on multiplie les protocoles. Et donc, du coup, la société aussi est très en demande de protocoles. Si on est tous d'accord que c'est infernal d'être dans un lieu aussi aseptisé, n'empêche que si moi, j'ai mes parents ou n'importe qui, un proche qui est en EHPAD et qui a un problème, qui chute, je sais pas, directement, le réflexe, c'est de porter plainte et de dire « Ah non, mais c'est pas normal ». Et donc, c'est ça, c'est là où on est pris au piège aussi dans ce monde-là, c'est que non seulement les institutions multiplient les protocoles, mais que la société est très en demande. Et c'est pour ça que je dis souvent, l'enjeu pour se sortir un peu de ce dilemme, c'est de créer des co-responsabilités. C'est d'arrêter de dire, bah, la solidarité, ça repose uniquement sur des institutions et des professionnels qui s'occupent d'un public spécialisé. Comment on est co-responsable? Comment on accepte de prendre des risques ensemble et d'ouvrir ces lieux? Donc, l'ARS ou d'autres institutions, elles portent ce paradoxe en elles et que porte la société aussi.
Absolument.
C'est-à-dire à la fois le désir de protection et de surprotection qui, poussé à son extrême, nous tue et en fait est contre-productif et même va contre la mission du prendre soin. Et en même temps, la conscience, je crois, chez tout le monde, se dire mais on peut plus continuer dans cet univers-là. On a besoin d'horizons, on a besoin d'ouvrir, on a besoin de sortir de ces monocultures. Moi, j'appelle ça des monocultures de l'aide où on a des champs de personnes âgées, des champs de personnes handicapées, des champs... On a besoin de permaculture, d'ouverture, et on a conscience tous qu'il faut y aller et qu'il faut imaginer autre chose. Voilà, maintenant la question c'est par où on commence?
Eh ben, on commence par des coquelicots en forme de parapluie rouge dans un champ bien vert. Voilà, par où on commence, c'est par là que vous avez commencé. Les gens qui verront le film comprendront pourquoi je dis coquelicots et parapluie, parce que vos parapluies m'ont fait penser à des coquelicots. Et les parapluies, c'est un petit peu l'emblème du spectacle qui se joue et de cette création qui se joue. C'est très intéressant ce que vous avez dit, Bertrand Hagenmüller, sur la responsabilité de la société. Parce que ce film, il a aussi cette qualité de nous montrer que les personnes atteintes d'Alzheimer, elles peuvent être rigolotes, elles peuvent être vivantes, elles peuvent être chiantes, elles peuvent être, enfin, juste des gens avec qui on peut vivre, en fait. C'est pas des personnes devenues, réifiées, devenues comme un peu des objets qu'on doit mettre dans un coin. Bon, bah, on continue de les nourrir et de les torcher, juste parce qu'elles sont vivantes et puis qu'elles nous rappellent quelque chose. Mais il y a encore des choses à faire, en fait, dans l'instant. C'est ça qui est dit, le film.
Absolument. C'est tout à fait ça. C'est alors vraiment, et je crois pas que ça soit naïf, parce qu'on peut être, bien sûr qu'il y a la question de la dépendance. Commençons par ça. Il y a la question de la dépendance, des souffrances énormes que ça peut engendrer, etc. Ça, c'est un fait. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose à raconter aussi de l'ordre du possible. Et ce qu'on s'aperçoit, évidemment, c'est que quand on prend le temps d'entendre l'autre dans ce qu'il sait faire, dans sa vision du monde, dans ses ressources, et pas uniquement dans ce qui fait de lui quelqu'un de malade, c'est-à-dire quand on le prend en compte comme une personne, évidemment qu'on met la caméra et là tout de suite on entend des choses très belles, on voit qu'on a du plaisir à être ensemble, hein. Je pense que c'est ça aussi l'expérience qu'on vit, on fait pas une animation, un spectacle pour des personnes dites fragiles, les soignants aussi, leur compagne, vous l'avez dit, les enfants qui sont là, prennent du plaisir à être ensemble, et ça fait du bien à tout le monde. Donc ça, c'est sûr que c'était un enjeu important, et l'enjeu, je crois, de tout film documentaire, c'est de donner la parole à ceux qu'on entend peu ou pas, et de ne pas en faire, et vous l'avez très bien dit, comment dire, des objets de notre discours. Ça aussi, pour moi, c'était quelque chose de très important. Souvent, quand on parle des personnes malades, de la maladie d'Alzheimer en l'occurrence, bah voilà, on dit « Oh, les pauvres, c'est difficile, etc. » Et de la même manière, d'ailleurs, quand on parle des soignants, souvent, on colonise leur discours, on dit soit on les considère comme coupables de maltraitance, soit on les considère comme victimes d'un système qui les écrase.
Soit comme héros.
Soit comme héros, absolument. Et à un moment donné, on dit, mais écoutons-les, ces gens. C'est-à-dire ce qu'ils ont à nous dire dans leur intelligence, dans leur humanité. Ça, c'est vraiment absolument indispensable. Et ce film-là donne beaucoup la parole, en tout cas, je l'espère, aux soignants. On les voit dans leurs réflexions, dans leur manière.
On va y revenir, parce qu'il y a un extrait, justement, ouais, qu'on va passer, où ils s'interrogent sur plein de choses. Ils s'interrogent sur presque des questions cinématographiques, d'ailleurs. Absolument. Le rapport à la vérité, qui rejoint tout à fait votre propos aussi dans le film. Mais je vous propose tout de suite qu'on écoute un premier extrait du film. Je crois que c'est l'arrivée. On n'est pas loin de l'arrivée. Les résidents découvrent leur nouveau lieu de vie et ça donne lieu à l'émergence de souvenirs.
Non, en fait, vous allez dormir au premier étage. Ah. Ça va être des chambres de deux, normalement.
Ah. Hey. Allez-y, doucement.
Ah, et donc les toilettes sont là, en fait.
Qu'est-ce que c'est, cette pièce?
Oh, bah, ça, c'est une pièce où on lit.
Une pièce où on lit?
Oui.
Ouais. Et elle était comment, votre maison, à vous?
Oh, bah moi, elle est petite. Je suis chez mes parents encore. Il y a ma chambre. Il y a la chambre de mes parents.
Et un jardin?
Oui, il y a un beau jardin. Quand je lis un livre qui me plaît et que mes parents font du bruit, je vais dans le jardin et je lis. J'aimerais bien habiter là.
Ouais, moi aussi.
Voilà, un premier extrait qu'on écoute où on entend c'est beaucoup Nicole qui raconte ses souvenirs d'enfance, en fait, qui retombe en enfance, et en fait c'est je sais pas si c'est le film qui a révélé ça, mais c'est assez fascinant de voir le trajet psychanalytique un petit peu de Nicole dans ce film où sans doute une enfance qui a été marquée par la violence, et dès cette première scène, ses parents qui font du bruit et le silence qui suit. En fait, on apprend à écouter aussi en regardant votre film. On apprend à découvrir des choses, des gens peut-être qu'on a côtoyés sans que ça apparaisse.
Ouais, c'est joli d'ailleurs pour moi de l'écouter simplement sans voir l'image, parce qu'évidemment quand on fait un film, on s'attache aussi beaucoup à l'image, et là d'entendre, ça prend une tournure, enfin un écho différent. Oui, absolument. Je crois que un des enjeux, je dirais, en général, dans le rapport à l'autre et dans l'accompagnement de la fragilité, c'est d'être disponible, c'est-à-dire de ne pas renvoyer l'autre ni à un passé, ni à un futur hypothétique, mais d'être dans le présent. et dans la forme de présence partagée. Le théâtre nous aide beaucoup à ça. C'est pour ça qu'on a utilisé le théâtre, parce que le théâtre d'improvisation, en tout cas, il a une règle de base qui est quand quelqu'un me fait une proposition, je suis obligé de dire oui. Sinon, l'histoire s'arrête. Évidemment, quand on est avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et qui... Par exemple, que Nicole peut nous dire « Oui, ma mère m'attend là, il faut que j'aille la rejoindre. » Par exemple, alors que sa mère est morte depuis longtemps, bien sûr, si vous lui dites « Bah non, votre mère est morte », tout s'effondre. À la fois, elle vit cette souffrance du deuil, et puis, soit en tant qu'accompagnant, on se retrouve aussi impuissant. Et donc, du coup, on est obligé d'accueillir ce que dit l'autre pour tisser une histoire avec l'autre. Et ça, c'est une règle du théâtre d'improvisation, mais c'est une règle de l'accompagnement en général. Et en particulier avec les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc là, Nicole, qui pour elle, vit chez ses parents, nous raconte qu'elle a un grand jardin dans lequel elle va lire, et qui plus tard dans le film nous confesse effectivement des choses très belles.
Très belle et très dure.
Très belle et très, très violente aussi. Et je pense que l'enjeu, c'est pas de savoir si elle a tort ou elle a raison. La question, c'est de la rejoindre là où elle est, dans son présent. Et c'est à cette condition-là qu'un échange est possible.
Et c'est des, voilà, leur arrivée dans ce lieu, ça crée des choses très, très, très différentes, en fait. À la fois, ils sont un petit peu perdus, mais en même temps un peu émerveillés. Et puis, il y en a qui vont tout de suite se mettre avec les soignants dans les transats. Et voilà, et tout d'un coup, ils sont les châtelains. Et puis, d'autres ont peut-être un peu peur. Et puis ensuite, arrive tout de suite le théâtre. Voilà, le fait d'aller faire du théâtre dans un autre lieu qui est un théâtre, puisqu'ils investissent une salle qui est juste à côté. Ils rencontrent une équipe de comédiens, dont un est très mystérieux d'ailleurs dans votre film. Je profite que vous soyez là pour vous poser des questions. Il y en a un brun, qui écoute beaucoup, quelqu'un d'assez filiforme, qui a l'air d'avoir très peur de la caméra, mais qui a une drôle de présence dans ce film. C'est un accompagnant, c'est qui?
Ouais, c'est joli d'avoir remarqué ça, Daniel. Il s'appelle Daniel, oui, c'est un accompagnant, un soignant qui est... son rôle dans l'EHPAD, puisque en fait là, on a uniquement des personnes, des accompagnants de l'EHPAD qui sont parfois aides-soignants, parfois il y a une infirmière, mais il y a aussi Daniel qui est ASH, c'est-à-dire qui fait le ménage dans l'EHPAD, et qui est une personnalité incroyable. Alors évidemment, on a cultivé cette espèce de cette présence silencieuse. D'ailleurs, dans le précédent film, par en première ligne, dont je parlais tout à l'heure, il intervient pas mal et il raconte aussi la manière dont il a vécu le Covid. Là, c'est vrai qu'il y a vraiment cette présence mystérieuse et une grande présence absence, ou je sais pas comment dire ça, parce qu'il parle peu dans le film.
Mais on dirait qu'il y a un rocker là, avec ses lunettes noires, incroyable, voilà, qui est là en observateur. Il fait comme si c'était un écrivain là, qui allait prendre des notes. Non, il y a plein de personnages, il y a plein de plusieurs couches dans ce film, en fait. Moi, je l'ai vu plusieurs fois pour préparer cette émission, et c'est vrai qu'à chaque fois, on découvre d'autres personnages. Il y a tous ceux qui sont un peu en retrait, puis bien sûr, il y a les stars. Et parmi les stars, il y a Antoine. Antoine, qu'on va entendre dans cet extrait, qui est une des scènes les plus émouvantes de ce film. Alors, évidemment, il faut aller voir le film, parce que là, vous allez entendre des choses, et puis on ne vous dira pas tout avec Bertrand, on ne vous dira pas tout ce qui se passe pendant que vous ne voyez pas, et que vous pouvez juste le deviner avec le son. Mais voilà, là, c'est un peu des scènes de grand désespoir, de gens qui perdent la mémoire, perdent leur capacité, ils s'en rendent compte.
Excusez-moi, mais l'Alzheimer me pourchasse et j'oublie la moitié des mots parfois. C'est pas volontaire. Donc c'est très très oui. Oui, madame, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que je suis désolé.
Non, vous excusez pas. Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est quoi qui vous fait mal?
Je ne sais pas, c'est corporel. Et puis, je pleure.
Vous avez le droit de pleurer.
Je pourrais m'asseoir.
Oui, bien sûr. Ouais. Allez, il y a une chose ici. Venez vous asseoir.
L'émotion. L'émotion.
Non, c'est gentil. Oh, c'est gentil.
des crises comme ça, dans la maladie que l'on appelle, je ne sais plus comment. Il y a un moment, un jour, où il est arrivé que... Il y a eu une cassure. Et donc là, j'en souffre atrocement. Parce que je ne vois pas de guérison en vue.
Voilà, c'était Antoine qu'on entendait. Et c'est un beau moment. Et voilà, il y a un moment de silence. Puis tout d'un coup, tout le monde sourit, tout le monde rit. Parce que la petite fille d'un des soignants vient de faire un petit... est allée spontanément faire un petit bisou à Antoine qui pleurait. Et donc voilà, c'est des beaux moments de solidarité aussi. Et c'est vrai que c'est assez rare d'avoir capté ça parce que on entend rarement la parole des personnes malades elles-mêmes. Et de justement, ce désespoir-là, on peut le vivre dans l'intimité quand on connaît des gens à qui ça arrive. Mais c'est pas souvent montré, en fait. C'est même jamais montré.
Ouais, assez peu. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi de je le disais tout à l'heure, de pas coloniser un discours, de pas en faire uniquement des victimes, parce que je pense que cette attitude aussi paternaliste qui consiste à juste dire le pauvre et à traiter les gens uniquement comme victimes ou comme malades, ça permet pas de rentrer en lien avec eux. Et là, ce qui est beau, je crois, dans le film, ce qu'on voit entre les soignants et les résidents, c'est justement qu'ils se considèrent comme des personnes dignes d'écoute, chacun. Et ça, c'est très fort. Et effectivement, là, on voit Antoine qui parle de la maladie. C'est rare aussi des personnes qui parlent de la maladie d'Alzheimer, parce que souvent, il y a un mécanisme en fait dans la maladie qui fait que on n'a pas conscience d'être malade. Voilà. Ce qui est le cas pour la quasi-totalité des personnes présentes, en fait, sauf Antoine, qui lui sait et voit qu'il oublie des mots régulièrement, et qui, enfin, plus que des mots d'ailleurs. Donc il a cette conscience très vive de la maladie qui le rend très, très, très fragile. Donc voilà, donc en tout cas, oui, il y a cette parole-là, et puis peut-être on en parlera après, mais il y a plein d'autres paroles absolument magnifiques qui sont prononcées par les personnes, comme Didier, comme Anne-Marie, et qui sont d'une poésie et d'une profondeur assez déconcertante.
Ah oui, vraiment, c'est un film de philosophie en fait. Et Antoine, c'est un personnage intéressant parce que là, on le voit dans un moment de fragilité. Mais Antoine, c'est aussi le beau gosse de la bande, l'amoureux qui va réussir à faire en sorte que son amoureuse le rejoigne. Enfin voilà, il y a tout ça. Il y a une vraie intrigue. Il y a plein d'intrigues qui se mêlent dans votre film. C'est pas juste de l'observation. Il y a aussi va-t-il réussir à faire venir son amoureuse? Oui, il va réussir. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez filmer la scène Shabala? Oui, peut-être. On sent que vous avez... Ben voilà, vous avez cherché aussi des moments comme ça à raconter des histoires dans l'histoire. C'est pas juste de l'observation. Il y avait plein de petites intrigues. Vous vous êtes pris au jeu du théâtre, en fait.
Ouais, bah c'est sûr, hein. Il y a de toute manière, la vie comporte toujours plein d'intrigues, et il se trouve que là, pour le tournage, il y en a eu plein, et donc du coup, comme on était très présents, hein, on a tourné à peu près 150 heures.
Vous habitiez là-bas aussi?
Oui, bien sûr. Ah oui, c'était quelque chose de fondamental pour moi, évidemment, mais aussi pour tous les techniciens. Donc, on était deux à filmer. Il y avait le chef opérateur, Julien Gidouin. Il y avait aussi deux preneurs de son. Bref, on était quand même une petite équipe technique. Et moi, j'avais vraiment passé le mot à tout le monde, disant, si vous venez, c'est pour vivre dans cette vie, dans cette maison, et l'habiter vraiment. Donc, ça veut dire qu'on participait aux balles, parce qu'il y avait des balles régulièrement.
C'est fou quand même. Ça donne envie. Ils n'arrêtaient pas de danser, en fait. Ah, oui. Je sais pas si vous avez sûrement monter ce genre de scène, mais on a l'impression que la fête s'invitait tout le temps.
Alors, on l'a plutôt sous-monté. Parce que
wow,
vraiment, et comme on a essayé aussi de reproduire une espèce de chronologie, d'avancer, donc la danse arrive beaucoup dans la deuxième partie du film. Non, en fait, il y a la danse tout le temps, on danse, on fait des balles, et ça donne des repères aussi. Les repères, c'est pas que des interdictions et des impossibilités, c'est aussi, si on danse tous les soirs un bal à 8 heures...
Et masqué, en plus, souvent, déguisé.
Absolument, tant qu'à faire, faisons balle masquée. Et voilà. Et donc, du coup, il y avait ce désir d'être très présent, aussi l'équipe technique, et de partager ce quotidien. Moi, je crois que c'est ça qui a fait aussi que la caméra a finalement été très rapidement adoptée par tout le monde, et ce qui a permis aussi de recueillir des moments, des intrigues, des propos très, très riches. Voilà. Et parmi les intrigues, il y a effectivement Antoine qui est très amoureux de sa compagne qui est restée à l'EHPAD, et il va faire des pieds et des mains pour qu'elle puisse venir nous rejoindre. Et sans tout spoiler, je crois qu'il y arrive.
Il faut aller voir le film, hein, ça sort mercredi. Ce sera disponible où à Paris? Où est-ce qu'on pourra le voir? Tiens, je fais toujours de la promo perlée. Alors, où est-ce qu'on pourra le voir? Où à l'espace Saint-Michel, ce genre d'endroit?
Au 3 Luxembourg, il y aura des séances. Après, il y a des séances.
Où est-ce que vous serez avec lui?
En tout cas, sur Paris, j'aurai la chance d'être là au 3 Luxembourg le 2 mai.
D'accord.
Donc vendredi 2 mai, et puis au Pâté Alésia le 6 mai.
D'accord, voilà, donc il est quand même pas mal distribué, on peut le trouver assez facilement sur Paris, c'est pas juste une petite salle.
Oui, il est distribué. Après, il faut, voilà, on se bat
pour
en parler,
qu'on... Il faut en parler pour que ça dure des semaines,
c'est
effectivement,
ça, c'est
pour que ça donne envie. Bah, c'est un sujet qui est concernant et qui le sera de plus en plus, parce que bon, on sait que malheureusement, sans doute pour des causes environnementales, allié au vieillissement de la population, Alzheimer, ça va nous toucher peut-être pas tous, mais une proportion un peu toujours croissante de la population. Donc bon, bah, peut-être qu'avoir une opinion un petit peu moins désespérée sur cette maladie, ça peut pas faire de mal, on va dire ça. Et puis maintenant, on va écouter un extrait avec une de mes préférées, qui est une sacrée grâce quand même, Anne-Marie. On va écouter Anne-Marie.
Je comprends pas,
monsieur.
Vous comprenez pas ce que nous on fait là tous les deux?
Oui. Je sais pas.
On va faire une pièce de théâtre ensemble.
Encore?
Encore? Bah oui, on en a déjà fait un petit peu, c'est vrai, mais c'était des petites. Là, on va en faire une grande.
Ok, alors je vous explique, Anne-Marie. Ici, c'est votre bureau.
Oui.
Vous êtes médecin.
Bon.
Bon. Ça vous va?
Oui.
Je veux le rôle d'un médecin. Et Marie?
Je suis pour l'eau. Moi, je vais être votre patiente. J'ai quelque chose de très important à vous demander.
Ça va? Vous êtes prête? Et puis nous, on est spectateurs.
Oui.
Ok?
Oui, je vois.
Ben, quand vous êtes prête, c'est parti.
Oui?
Je peux rentrer?
Oui.
Ah, merci.
Bonjour, docteur. Je viens vous voir parce que j'ai un problème.
Ah,
parce que moi je me perds dans la rue, je me perds chez moi. Je me suis perdue dans votre cabinet, docteur.
Dans mon cabinet?
Mais oui.
Bah, c'est tout droit.
Je me perds même dans des endroits où c'est tout droit.
Alors, soyez de travers. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Si vous êtes de travers.
Vous pensez que j'arriverai à plus me perdre si je suis de travers?
Peut-être. Il faut faire beaucoup de choses.
Alors dites-moi ce que je dois faire, je le ferai à la lettre. Mais s'il vous plaît, regardez-moi.
Mais je peux vous regarder, mais ça sert à rien.
Bah moi, ça m'aide. Parce que du coup, j'ai l'impression que vous me prenez vraiment au sérieux.
Parce que là, avec vos yeux ronds, on a l'impression que vous êtes fichu. Il faut pas avoir les yeux ronds, il faut avoir les yeux un peu plissés.
Alors dites-moi, montrez-moi comment il faut que je fasse.
Ben, comme ça, vous savez, les yeux un peu, voilà, naturel.
Là, j'ai l'air naturel.
Oui, un peu.
Un peu, ok. Combien je vous dois? Parce qu'en fait, c'est inestimable, là, ce que vous avez fait.
Oui, c'est vrai.
Combien je vous dois?
1000.
1000?
Elle jouait bien.
Oui.
Parce qu'elle n'est pas toute jeune. Elle est âgée.
Je sais pas, demandez-lui.
Oh, elle a un bon 90. Bon 90, au moins. Moi, j'ai... Oh, je sais même plus. On est en 1980, je pense. Peut-être pas tant que ça. Oh, je sais pas. Je sais plus. En quelle année on est, je sais plus.
En quelle année on est?
80.
Je
sais pas. Pas tant que ça, si.
Pas tant que ça. Avant ou après ?
Voilà, c'était... On a écouté Anne-Marie dans son rôle de médecin et on découvre des gens assez pleins d'humour et puis assez vacheurs entre eux aussi. Ça, c'est une des scènes, mais vous avez capté plein de scènes où il y a des petites piques qui se balancent comme ça. Et voilà, il y a quand même des échanges, il y a de l'interaction, il y a de la rigolade sur le moment.
Oui, c'est sûr, il y a de la vie, en fait. Puis dans la vie, il y a aussi, on se charrie un peu, il y a des petits conflits, des petites... Donc oui, ça fait partie de la vie et entre résidents aussi, ouais. C'est ça aussi qui rend les choses, et parfois avec une répartie assez troublante.
Voilà, oui, j'invite chacun à aller voir le film et à observer Anne-Marie, qui se prend quand même toujours un petit peu pour une princesse, il faut le dire. Alors cette dame, j'apprends en lisant, je ne sais plus si c'est dans le dossier de presse ou si j'ai lu ça ailleurs, qu'elle a été magistrate, c'est ça, hein, ouais. Voilà. Donc elle a conservé, malgré sa maladie, pas mal d'autorité.
Ouais, alors ce qu'il faut avoir en tête, et c'est vrai que quand on voit le film, on s'en rend pas forcément compte, Anne-Marie, avant de partir, puisque pour l'explication, en fait, les personnes qui sont venues, c'est des personnes donc qui participaient à un atelier théâtre, d'une manière ou d'une autre. C'était ça, il n'y a pas eu de casting, autre que celui-là. Et Anne-Marie, moi, on me disait, mais pourquoi tu veux qu'elle vienne? Elle bouge plus, elle parle plus. C'est-à-dire qu'avant de partir, elle était vraiment...
Elle parlait plus, non.
Oh. Quasiment. Et donc, du coup, on l'a vu vraiment se redresser, littéralement. C'est-à-dire retrouver sa verve, sa mouvement de prestance et effectivement son autorité, voire son autoritarisme parfois, qui effectivement, il y a deux ou trois fois où elle fait allusion au tribunal, etc. Et donc, on comprend entre les lignes qu'elle a été magistrate avant. Mais oui, c'est des personnages, c'est vraiment des personnes qui se sont redressées. Et c'est ça, c'était très beau et très impressionnant à voir. Voilà. Alors, on la voit aussi, Anne-Marie, dans cette grande fragilité, quand elle ne peut pas descendre un escalier et qu'elle est comme désespérée par ça. Et en même temps, elle est plein d'humour et parfois très, très autoritaire. Elle arrive à voir ce qu'elle veut.
Une des leçons du film aussi, vous faites allusion à cette scène de l'escalier où Anne-Marie s'effondre, enfin est en larmes parce qu'elle ne sait plus descendre un escalier, dit-elle. Ça fait écho à la scène qu'on a entendue avec Antoine tout à l'heure, où il y a vraiment ces moments de désespoir. Et on constate aussi dans le film, alors ça va faire hyper neuneux ce que je vais dire, mais le pouvoir de la tendresse, en fait. Mmh. Le fait de prendre dans ses bras, de faire ensemble, bah, ça prend peut-être pas plus de temps que de pas le faire. Et ça marche, en fait. Ça marche terriblement bien. Mmh. C'est idiot, mais voilà, ça c'est juste d'être avec, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante d'ailleurs, hein. C'est-à-dire, souvent en EHPAD, alors maintenant ça change un tout petit peu, mais c'est quand même encore la règle de la bonne distance, de la distance professionnelle. Donc on vous voit, madame, monsieur, on s'approche pas trop, etc. Ce qui peut parfois se justifier, enfin je veux dire, mais ça justifie pas. Ce qui peut justifier, c'est de faire attention à pas faire de l'autre un objet, c'est-à-dire voilà, l'infantiliser, etc. Mais ça justifie pas, en fait, la distance, rien la justifie, puisque ce qui fait qu'on est en lien, c'est d'assumer une proximité juste. C'est-à-dire parfois on se rend compte que quand on est trop près, hop, on fait un pas, on se recule un peu, mais globalement c'est une chance d'être proche, et c'est ça que dit le film. C'est-à-dire, là on a des soignants qui assument le fait d'être, comme le dit Steven, un des soignants de personne à personne, et de rencontrer l'autre, non pas en étant dans son rôle de soignant, mais en étant de personne à personne, même si en tant que soignant on a aussi des connaissances qui nous aident à accompagner l'autre. Ça veut dire d'assumer la proximité physique quand elle est là, et souvent c'est plus important que le langage. S'embrasser, se prendre dans les bras, se regarder, se considérer, en fait, c'est des choses qui sont fondamentales. Dit comme ça, ça paraît d'une banalité affligeante. Et pourtant, le monde qu'on a créé parfois en institution, c'est un monde justement où il n'y a plus ça, au nom du respect.
Et là, au nom du manque de temps aussi, en vrai.
Et vous avez raison. Au nom du manque de temps, c'était tout à fait juste, et ça, c'est un énorme problème. Mais aussi au nom d'une forme d'éthique où il ne faudrait pas prendre la place des familles, etc. Ne pas... Et là, moi, je crois qu'on marche sur la tête et qu'on a, au contraire, et on le voit tout au long du film, cette tendresse, j'aime beaucoup le mot que vous utilisez, c'est ça, c'est de la tendresse assumée dans le respect de l'autre, et pas pour faire, pas une tendresse paternaliste, une tendresse d'écoute et de disponibilité.
Il y a un très beau passage dans le film quand une dame dit à un des soignants « Pardon d'être si proche de vous » et tout ça, et il lui répond « Ça me fait plaisir ». C'est un vrai moment, c'est un beau moment de vérité. Enfin, il y a plein de beaux moments dans ce film, allez-y, tout simplement, voilà. Non, mais c'est, voilà, c'est un film qui fait du bien et qui, encore une fois, qui rend possible, enfin, qui montre que c'est possible, voilà, qu'il y a des moments, il y a des endroits où c'est possible de faire autrement que ce qui nous terrifie tous, c'est-à-dire cette froideur mécanique du soin et de la fin de vie, parce que bah, ces personnes, elles, y a encore plein de vie à vivre, bien sûr, et le film et leur vie en est la preuve, mais voilà, c'est quand même, si on s'en occupe pas, ça peut virer vers un désespoir mortifère, en fait. Et en l'occurrence, bah là, on s'en occupe et ça devient tout autre chose, en fait. C'est ça qui est magique, cette fête comme ça. Et ça rend aussi possible, alors je sais pas si là, je m'avance un peu en disant que c'est cet endroit qui permet ça et c'est ce contexte qui permet ça, mais ça rend possible aussi un libre arbitre, même de la part de personnes malades et malades d'Alzheimer. Et je voudrais qu'on écoute Françoise, à qui on fait une proposition qu'elle refuse.
Mais en fait, le fil rouge, pour moi, c'est de raconter c'est quoi notre vie, en fait. Comment on vit tous ensemble avec des résidents, avec des enfants, avec des gens des âges différents, avec des gens qui viennent d'ailleurs. Enfin voilà, en fait, c'est un peu ça qu'on veut raconter. C'est ça, le fil rouge. Ensuite, il y avait une des scènes aussi, une scène d'EHPAD où c'est le résident qui veut me faire rentrer en EHPAD.
Sur ce sujet-là, je pense que c'est pas mal d'inverser les rôles.
Ouais. Ça, c'est sûr.
Ça fonctionne bien.
Mais en gardant quand même l'EHPAD.
Ouais.
Et avec qui on pourrait imaginer cette scène-là? Qu'est-ce qui pourrait jouer ça? Françoise?
Donc l'idée de notre improvisation,
oui,
ce serait que je sois donc... ta maman, et toi tu es ma fille, du coup,
okay.
Tu m'expliques que je peux plus rester chez moi, et que donc du coup tu penses à ce que j'entre dans un EHPAD, dans une maison de retraite.
Mm-hmm. Je me sens pas très à l'aise pour faire ça.
Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise?
Bon, le sujet.
Le sujet?
Je suis dans un EHPAD, non pas par mon choix, mais par une obligation. Je ne peux pas vous le faire.
D'accord.
Je suis désolée.
Ne soyez pas désolée, vous avez absolument
mais
raison.
Mais ce n'est pas mon choix. Je n'ai pas eu ni à dire oui, ni non. J'ai dû y aller, c'est tout. Et je ne peux pas dire que j'ai apprécié.
Je comprends. Merci, Françoise, de...
Désolée, mais...
Non, de ne pas être honnête.
Je ne peux pas jouer ça.
Ouais, mais je comprends, bien sûr.
Voilà, je trouve que c'est une scène magnifique parce que, voilà, du coup, il y a aussi... la décision est partagée, la discussion est à égalité. Parce que c'est des comédiens qui discutent entre eux de leur rôle et il n'y a plus de soignants soignés. Alors, évidemment, la scène n'est pas neutre puisque on joue sur des choses qui se font écho à la réalité de ces gens. Rien n'est neutre parce que si elle dit non, c'est aussi à cause de sa situation. Mais là, on est dans un dialogue à égalité. C'est assez chouette et c'est assez rare quand même.
Ouais, c'est enfin, en tout cas, c'est ça qui était.
Vous l'avez pas. Alors, question un peu pernicieuse. Vous n'avez rien. Provoquer, c'est pas une scène de théâtre, c'est vraiment passé comme ça, Bertrand.
Alors, on fait du théâtre ensemble, mais après, effectivement, ce qu'on filme, c'est tout le processus de comment on construit des scènes, et c'est intéressant d'ailleurs, au départ, on était parti plutôt sur une idée de réfléchir à la liberté en général, et même si là, on en parle, en l'occurrence, de manière très... Et c'est vrai que les scènes ont été à la demande des soignants et à la demande des personnes, des résidents, beaucoup tournées autour de l'accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire, comment on prend soin, donc la question du médecin, des médicaments, et puis le fait d'aller en EHPAD. Donc ils avaient vraiment envie de jouer ça.
Cette scène, elle a eu lieu sans que vous la provoquiez, on est d'accord.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, nous on filmait ça. Après, nous, on était là pour filmer le processus de ce qui se mettait en place. Après, Ce qui est troublant avec la maladie d'Alzheimer aussi, c'est que parfois, il y a quelque chose de très théâtral. Moi, je dis souvent que je racontais les règles du théâtre d'improvisation. Quand on va en unité Alzheimer, souvent, les soignants qui s'en sortent le mieux pour dire les choses comme ça simplement, c'est ceux qui utilisent cette règle-là, c'est-à-dire qu'ils savent improviser sans cesse. Et les personnes qui sont malades improvisent aussi beaucoup parce qu'elles cherchent à rebondir sur le dernier mot, parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'informations ou de souvenirs, donc elles rebondissent sur le dernier mot, essayent de sauver la phase. Et en fait, pour rester en lien, elles improvisent aussi sans cesse. Et donc l'improvisation, c'est quelque chose d'assez naturel dans l'accompagnement. Donc après, quand on se met à faire du théâtre, finalement, on prolonge le geste du quotidien. Et d'ailleurs, dans le film, il y a certaines scènes où on se demande si là, ils sont en train de travailler sur une scène de théâtre ou alors c'est une vraie scène. Et bon, ça m'a intéressé aussi de laisser ce doute. Parce que précisément, c'est ça qu'on vient interroger, les frontières un peu poreuses entre l'imaginaire, la fiction, le mensonge, la vérité. On est vraiment dans quelque chose qui, voilà, sur une crête, et ça m'intéressait de justement travailler sur ces frontières poreuses.
Ah ouais, il y a une scène, alors j'essaye de retrouver l'extrait, parce qu'il y a une scène, on dirait que c'est une scène qui se passe chez un psychanalyste.
Absolument.
Alors, est-ce que c'est une scène ou est-ce que c'est un moment de vie que vous avez capté? C'est une scène où on entend, c'est Anne-Marie et Nicole, hein, c'est
absolument.
Ça? Voilà. Alors, on va voir si c'est ça. Essaye la piste 6, Gilles.
Bon, je lui dis, redonnez-moi le faux bébé, mais c'est pas du tout un faux bébé, c'est un vrai bébé. Enfin,
non,
voilà,
Nicole,
c'est,
par contre, elle est restée
un peu bloquée là-dessus. Et en même temps, la question qu'on se dit, c'est bah oui, mais ça la pèse.
Bah, c'est peut-être gênant aussi pour nous de dire.
Mais pourquoi c'est gênant d'ailleurs?
Bah, ça peut être gênant de.
Alors, c'était pas cette scène-là, c'était la 5, la piste 5, on fait tout en direct. Hein. Mais justement, là, c'est un autre passage où on entend les soignants qui se posent justement cette question qu'on évoquait, c'est est-ce qu'on doit rentrer dans leur délire ou pas rentrer dans leur délire, alors que justement, on est en train de faire du théâtre, alors que normalement, ça se fait pas, mais qu'en même temps, pratiquement, c'est quand même plus pratique de le faire plutôt que de les perdre dans la nature, et puis voilà, ou de les contraindre en leur donnant des médicaments, voire une camisole. C'est plein de questions existentielles du soin.
Absolument, et là, on a entendu la réflexion parce qu'en fait, Nicole, à un moment donné, pendant une scène, prend un poupon, en fait, et
ne va plus le lâcher.
Ne va plus le lâcher, et va le bercer, etc. Et donc, la question se pose de... mais en fait, c'est en faisant du théâtre qu'elle a pris ce poupon, et donc, du coup, on est un peu responsable du fait qu'elle l'ait... Et en même temps, elle le garde, elle le berce, et maintenant, elle le considère comme un bébé, ou comme... Donc, c'est quelque chose d'assez classique. Ceux qui travaillent en unité Alzheimer savent que c'est souvent ce qu'on appelle un transfert. Enfin, ça se fait souvent. Mais là, c'est intéressant d'entendre les soignants réfléchir à, mais alors, jusqu'où on va dans le fait d'accepter leur réalité? Et évidemment, ils finissent par conclure de dire, mais au fond, qui on est pour dire que cette réalité n'existe pas? Et l'enjeu, si on veut rester en lien avec l'autre, c'est au contraire de l'accepter, d'être dans le présent là où est l'autre, de le rejoindre là où il est. Ça, c'était important. À condition, dit, je crois, Steven, un des soignants, dit, à condition qu'ils ne se mettent pas en danger. Parce qu'évidemment, si leur réalité les amène à partir, à fuguer n'importe où, etc., n'importe quand, là, il y a la question du danger qui entre en compte. Mais à partir du moment où il n'y a pas de danger, je crois que ce qu'on doit à n'importe qui, c'est de ne pas parler à sa place, penser à sa place et de reconnaître sa réalité comme la réalité qu'il vit et qui est importante pour lui, de pas lui imposer la nôtre.
Donc on va écouter cette fois cette scène qui m'a beaucoup troublée, moi, alors à plein de niveaux, à la fois parce qu'Anne-Marie incarne une psychanalyste, mais vraiment plus vraie que nature. Alors, on ne sait pas si elle joue, si elle joue pas. Peut-être vous allez nous le dire, peut-être vous ne le direz pas. Et puis ce que livre Nicole est assez... Enfin, je sais pas où on était Nicole avant d'arriver dans ce lieu, mais effectivement, il y a Nicole qu'on voit toujours muette avec un visage assez peu expressif dans le film. Et
sauf quand elle fait du frisbee.
Ouais. Elle est pas trop mauvaise d'ailleurs, franchement. Je suis pas sûre d'être aussi bonne qu'elle. Elle le lance même pour la première fois, elle sait pas le prononcer, mais elle le lance super bien. Donc oui, et puis elle danse aussi, Nicole. J'ai l'impression qu'elle danse beaucoup et longtemps. Toute frêle, toute, voilà. Mais après, au niveau de la parole, on a l'impression qu'il y a de temps en temps des flots de parole qui lui arrivent et qui arrivent à sortir, et puis elle est assez peu dans l'interaction. Et là, on les voit aussi. Je crois qu'il y a une relation vraiment assez forte qui se lie et de complicité et d'affection qui s'est nouée avec Anne-Marie. Et là, elles sont toutes les deux dans une pièce et voilà ce qui se dit.
Vous rêvez ?
Oui.
Oui.
toutes les nuits. Vraiment, toutes les nuits. Je rêve de ce qui s'est passé dans la journée. Et j'ai tort de rêver de ce qui s'est passé dans la journée avec mon père. Parce que c'est toujours lui qui me bat. Ma mère ne me bat pas. Ou elle me donne une gifle. Mais c'est pas une... Mais mon père, lui, il y va, lui.
Il y va carrément. C'est difficile, ça. Très difficile.
Oui, c'est difficile. Avant, je recevais des fessées, mais le lendemain, je m'en rappelais plus. Tandis que maintenant, j'en reçois beaucoup moins. Et je les oublie.
Et vous les oubliez?
Oui.
Nous atteignons là un degré d'oubli anormal. Et je pense que beaucoup de gens oublient, mais comment dire, un peu généreusement. C'est-à-dire que on a tendance à oublier tout ce qui vous gêne. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui gênent les gens. Sous quel prétexte vous oubliez? Qu'est-ce que vous vous donnez comme raison d'oublier?
Je rêve, et dans mes rêves, je vois que j'ai tort. J'ai toujours tort, hein?
Je rêve, et dans mes rêves, je vois que j'ai tort. C'est emmerdant, ça, hein?
C'est emmerdant, mais c'est tellement beau. Ah, moi, ça va, elle est disponible comme si pour 1000 balles, on peut avoir ça pour nous aussi.
Il faut croire que oui.
Non, mais là, c'est... Alors, bon, allez, je résiste pas à vous demander, Bertrand Guidemuller, cette scène, elle est jouée ou elle est captée?
Elle est captée, elle n'est pas jouée du tout. C'est pas du tout...
C'est pas un contexte théâtral.
Non, c'est pas
un contexte
théâtral.
C'est deux copines qui se parlent, en fait.
Ouais. Et Anne-Marie qui joue effectivement ce rôle de psychanalyste, voilà, assez naturellement, ou de psychanalyste ou de confident, ou je sais pas quelle place.
Ça fait vraiment psy, la manière de reformuler, de pousser dans ses retranchements. Et ouais. L'autre qui joue le jeu de la psychanalyse, par contre, elle lâche des trucs incroyables.
Absolument, oui, qu'elle a jamais dit d'ailleurs par ailleurs. Enfin, après, on sait pas à quel point c'est vrai.
Mais pour
ou
moi,
pas.
C'est vraiment Nicole, c'est la révélation de ce film. Alors, franchement, il y a quand même quelque chose qui nous apprend quand même sur ce que c'est que cette maladie, sur voilà ce que c'est que le moment où on retombe en enfance, et surtout qu'on guérit pas de son enfance. C'est un classique, mais là c'est quand même bien présent, hein.
Ouais, tout à fait, et je trouve aussi très beau la manière dont, par exemple, Anne-Marie parle de l'oubli. Et en fait, dans le film, il y a beaucoup d'allusions des patients qui, pourtant, je le disais, ont pas conscience de leur maladie, hein. Si vous leur dites vous êtes malade de la maladie d'Alzheimer, pas du tout, ils ont vraiment pour la plupart d'entre eux pas du tout cette conscience. Là. Et pourtant, la question de l'oubli, de la mémoire, est vraiment toujours présente dans leur discours. Là, on a Anne-Marie qui dit cette phrase magnifique, dit, les gens oublient, mais un peu généreusement. C'est quand même incroyable.
Elle a tellement raison.
Juste. Et elle dira plus tard, on voit les choses d'une certaine manière, mais cette manière est-elle juste? On n'en sait rien. Voilà. Ou Didier qui nous parle du brouillard avec cette... Incroyable.
Et puis ces phrases qu'ils écrivent à un moment qui sont écrites sur les vitres, c'est un moment où ils cherchent des aphorismes comme ça, et à s'enrichir dans la perte. Ou la peste. Ben voilà, dans la perte, c'est aussi très très en résonance avec ce qu'ils vivent, en fait. Hein.
Absolument. Ouais. Alors ça, ce sont des phrases. On est parti d'un. Il y a Mélanie Leblanc, qui est une poétesse, qui nous a rejoint quelques jours, et donc elle a écrit un magnifique recueil, Les étoiles filantes, qui justement était sur la base des Je te souhaite. Et donc elle a amené ça, et on a fait des ateliers d'écriture qui ont donné lieu après au « Je te souhaite » des soignants et des résidents, et que les soignants, que les résidents lisent à la fin, on les entend à la fin du film, avec des « Je te souhaite » hyper beau, moi je trouve, mais aussi très troublant, comme par exemple Nicole qui nous dit je te souhaite l'enfant que j'ai bercé, voilà, mais qui donne comme une clé de compréhension, voilà, et donc du coup c'était très très fort de les entendre aussi réfléchir à ça. Et puis on a aussi je te souhaite de regarder devant cette espèce de
je te souhaite une fête où tout le monde est invité.
Absolument,
ouais, c'est ça, parce que c'est un peu ça, là c'est vraiment ils se souhaitent ce qu'ils ont en fait. Ouais. Et en fait, le gros enjeu du film, on va le voir en écoutant quelques mots de Didier. Alors Didier, on va en parler, parce que Didier, c'était pas gagné. Didier, c'est un homme plutôt aux yeux bleus perçants, cheveux longs, un peu, je dirais, têtu. Voilà, cheveux longs, blancs, et qui veut toujours aller rejoindre ailleurs de sa vie d'avant, et qui trouve qu'on l'emmerde un peu trop en l'enfermant. Et à un moment, enfin, à plein de moments, mais le moment que vous captez vraiment où ça arrive dans le film, c'est lors d'une sortie au bord de la mer. Bah, ils sont tout près de la mer, hein. Du coup, ils vont prendre l'apéro au bord de la mer. Et là, Didier, pour la première fois dans le film, il est là. Il est là au moment... Enfin, il revient d'une escapade, hein, il revient d'une tentative de fuite. Et tout d'un coup, il se rend compte que c'est pas mal de boire un coup avec les autres. On écoute Didier.
Tu veux quoi ? Rouge, blanc, rosé, bien ?
Ça veut dire santé ? Alors, prosit.
Prosit. Quand je regarde ça, là, ça me surprend un petit peu quand même, parce que je sortais de chez mon agence... Et j'arrive ici en peu de temps et je vois ça.
Un apéro.
Et la mer. Oh putain, ça me fait plaisir ça. Non, ça me fait vraiment plaisir. Là, je me sens près de vous, ça c'est important.
Voilà, je me sens près de vous et c'est important. Ça aussi, vous avez vu, vous avez filmé cette évolution. Les premières scènes où on voit Didier, c'est coton quand même, hein. C'est que, voilà, les filles qui l'accompagnent sont obligées de jouer de ruse. C'est assez drôle d'ailleurs en même temps, hein. Pour le ramener, qui au manoir, qui dans la salle des fêtes. C'est pas un méchant, mais il cherche quelque chose que ça l'énerve profondément de ne pas trouver, en fait.
Ah ouais, alors pour le coup, on aurait pu imaginer que c'est le lieu qui crée ça parce qu'il est loin de la maison de retraite. Mais en fait, à la maison de retraite, il est comme ça aussi. C'est-à-dire, ouais. Il cherche à fuir tout le temps. Et oui. Alors Didier, c'est un exemple d'évolution assez incroyable, hein, parce que je parlais d'Anne-Marie qui s'est redressée, voilà, alors qu'elle parlait plus. Didier, lui, il voulait tout le temps partir. Et clairement, au fil des jours, il a commencé par prendre moins de ce qu'ils appellent les six besoins, c'est-à-dire d'anxiolytiques, enfin, de moins en moins, jusqu'à ne plus en prendre. Et puis surtout à la fin il dit moi je reste. Et quand on est parti d'ailleurs il dit bah allez-y hein, vous pouvez partir, moi je reste, hein, ici je suis bien. Et donc du coup il y a vraiment ce mouvement où on le voit, pour reprendre ses termes, parce que je trouve ça très beau, se défendre contre le brouillard. Mm-hmm. Hein, et dès qu'il dit, d'ailleurs il le dit lui-même, se débrouiller, ça veut dire ça, se défendre contre le brouillard, sortir du brouillard. Mm-hmm. Et on le voit sortir du brouillard et apparaître en fait dans quelque chose qui s'éclaircit, je crois, pour lui. Et donc c'est très joli à voir, très émouvant aussi, ouais, de voir cette trajectoire.
Ouais, et puis à un moment il vous dit aussi à vous, qu'il filmait, il dit vous verrez ça avec mon médecin, il vous expliquera, mais voilà, moi je suis là. Et bon, il y a la maladie, ça, les médecins vous expliqueront. En gros, c'est ça, c'est dire, bon, voilà, là, vous m'avez moi en vrai. Et puis bon, bah, pour le reste, pour ce qui est de mes errances, vous irez vous faire expliquer ça. Il y a quelque chose de... C'est marrant comme il s'adresse à vous tous, Anne-Marie, à un moment, elle vous dit, non, mais ça va, là, tu m'as assez pompé l'air. Enfin, pas l'air, hein, mais j'ai plus que la peau sur les os. Tu m'as pompé toute la chair que j'avais. Ben voilà, ils ont aussi un rapport à la caméra et au réalisateur. Et pourtant, vous n'intervenez pas, c'est un vrai film d'or. Sans voix off, sans rien, avec une très belle musique d'ailleurs, vraiment très... Alors je suis un peu vexée parce que moi j'ai adoré toute la playlist, donc j'ai l'impression d'avoir 80 ans, mais c'est exactement tout ce que j'écoute. Donc voilà, c'est des chouettes chansons qui les font danser, qui l'interprètent, et puis mais la musique est très bien amenée aussi dans le film, elle est à... Je crois que c'est de la musique originale, non ?
Oui, c'est de la musique originale qui a été créée d'ailleurs par Tom Georgel. Il y avait trois musiciens présents qui ont créé la musique sur place, et c'est Tom Georgel qui a le compositeur. professeur, voilà, et qui est présent d'ailleurs, comme du coup qui prend part à la résidence. Et oui, c'est une très très beau, très belle composition. Et le générique de fin, c'est la famille Chédid avec Nash. C'est un titre de Nash, ce qu'ils deviennent, qui fait allusion aussi à André Chédid, sa grand-mère qui avait Alzheimer.
Et
voilà, et donc la famille,
poétesse,
absolument, la poétesse et la famille, donc Chédid a réinterprété ce morceau collectivement. Donc oui, la musique prend une place importante dans ce film.
Je voudrais qu'on écoute un dernier, peut-être au moins un dernier extrait. C'est un extrait où les soignants, bon, ils font comme d'hab, des réunions de transmission. Et là, c'est un peu une réunion bilan et c'est un peu, il va être question du cas de Didier. C'est un petit peu ce que vous constatiez à l'instant, Bertrand. C'est de voir un peu tout ce qui a été possible en termes thérapeutiques. En termes d'évolution durant ce séjour et aussi ce que ça a changé dans leur travail à eux. Comme des vacances.
Je me lève super tôt, je me couche hyper tard. T'as des journées de fou. Mais je trouve que ça passe hyper vite. Et c'est ça qui est hyper bizarre. Parce que moi, personnellement, à l'EHPAD, quand il est 17h, c'est là où je me dis putain.
Ouais.
Il reste encore 3 heures, tu vois, et je me dis, merde.
C'est pourquoi ? C'est parce que là, tu joues pas un rôle, là.
Même
c'est
si on a le sentiment qu'on fait chaque jour la même chose.
Même si on travaille limite 10 fois plus, on dirait qu'on est en vacances.
Je vois que les résidents, ça leur fait du bien, qu'ils oublient plein de choses, qu'ils s'amusent, qu'ils rentrent dans des personnages. Je trouve ça incroyable tout ce qu'ils peuvent faire en sachant avec leur maladie. Quand je vois Anne-Marie sur scène, moi, je suis émerveillée de la voir. Je me dis, elle est incroyable. Ils se sentent bien. Moi, j'ai des résidents qui m'ont dit, je me sens bien ici.
Je les découvre différemment. Là, on est dans un autre contexte. On est dans une maison. Entre guillemets, on vit en famille. Le rythme, il est différent. J'ai le temps de discuter avec eux. Et je me sens bien. Et eux, je sens qu'ils sentent bien aussi. Qu'on est en train de créer un lien.
Tu prends plus de plaisir.
Moi, je prends du plaisir. Eux, je sens qu'ils en prennent avec moi.
Tu es impliqué.
Même dans le regard, même dans le soin, même dans tout.
Si les gens qui sont ici vont mieux qu'à l'EHPAD, c'est parce qu'il n'y a plus cette relation soignant-soigné. Mmh. On est de personne à personne.
On est habillé en civil, j'allais dire.
Il y a du lien qui se crée davantage aussi, parce qu'il n'y a plus cette distance. Moi, je pense, on a beaucoup plus de proximité en se parlant de personne à personne. On se parle par nos prénoms, on se tutoie, même si ça peut passer pour un manque de respect. Avec ces personnes qui sont malades, la proximité, c'est de l'affection. Mmh. Et de l'affection, c'est par là qu'on gagne, quoi. Mmh. Et puis après, je sais pas, il y a d'autres choses de la vie. Il y a des enfants. Mmh. Dès qu'il y a un enfant qui est là, les yeux, ils brillent, quoi. Ça pétille, ça apporte du vivant, quoi.
Et quand tu rentres dans une maison chaleureuse où t'as de la vie, t'as des gens qui rigolent, t'as de la musique, t'as tout. C'est tout simple, en fait. Et que tu ne sois pas confronté en fait, à la réalité de l'EHPAD où tu vas avoir cette espèce de mouroir où tu dois rentrer là-dedans. Tu vois plein de gens qui sont sur les fauteuils en train de dormir. Et tu vas voir ton proche, il est plus ou moins dans le même état. Tu n'as pas envie de ça, en fait. Mmh. Moi, si je devais signer pour bosser dans ce manoir.
Je t'avoue que je signe.
Mais je signe direct.
Ah,
tu signes, toi ?
Je signe.
Et ouais, ils signent tous. Mais alors justement, il y a une autre scène qu'on n'aura pas le temps d'entendre. C'est à un moment, le psy discute avec la comédienne, art thérapeute, enfin je sais pas. Voilà, j'ai oublié le prénom du psy.
Kael,
ouais. Qui est génial. Qui est venu avec sa petite fille d'ailleurs, et sa femme. Enfin voilà, ils travaillent tous, ils vivent là pendant ces quelques jours. Mais bon, il va falloir rentrer. Et ça l'angoisse un peu, le psy.
Et oui, forcément. Et c'est pour ça que c'est qu'un début. Hein. C'est-à-dire, cette expérience partagée, je trouve que c'est déjà beau de se rendre compte, en fait, que malgré tout, les différences, le fait qu'il y ait des personnes malades, d'autres non, des jeunes, des vieux, comme le dit Didier, en fait, on est très différents, mais on est obligé de vivre ensemble parce que sinon, c'est toujours le bordel. Et il le dit dans le film, Didier, les patients. Et donc, du coup, je crois que c'est de pouvoir éprouver dans sa chair presque, que c'est possible, en fait, rien que ça, ça laisse des traces dans la mémoire des soignants qui après ont continué à avoir ça en tête sur comment faire du soin autrement. Ça laisse aussi des traces, même si la mémoire des résidents s'effiloche, il y a quand même une mémoire du corps. Et je crois que ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'ils ont vécu ensemble, je dis parce que j'ai l'impression d'avoir participé largement à cette aventure, C'est vraiment aussi le fait d'habiter une maison. C'est bête à dire, mais c'est-à-dire quelque chose qui ressemble pas à un hôpital avec des longs couloirs, etc., ni à un hôtel où on est servi, mais à une maison. Et une maison, c'est un lieu ouvert, un lieu où on se croise, et un lieu où aussi tout le monde a une place. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un lieu où tout le monde a une place et où tout le monde a une forme d'utilité. Moi, je dis souvent une seconde, mais quand par exemple Nicole, on la voyait faire les 400 pas parce qu'elle est angoissée, etc., donc Nicole qui a 90 ans et qui a la maladie Alzheimer, et qu'on voit Pia, 3 ans, présente dans le manoir, donc la fille de Kaël, lui prendre la main et lui dire « Maintenant, tu viens me lire une histoire, parce que j'aimerais bien que tu me racontes une histoire. » Nicole, elle retrouve une place. Alors qu'en EHPAD, on dit aux gens ben, « C'est important de continuer à marcher, c'est important pour vous. » Et puis les gens vous disent « C'est important
pour aller où ?»
Pour aller où et pour voir qui. Et donc, simplement le fait de retrouver du plaisir à être ensemble et de retrouver une place et une utilité dans une maison, dans quelque chose qui ressemble à une maison ouverte, où on a ce plaisir d'être ensemble, ça, rien que ça, c'est déjà quelque chose
vous
qui vous marque.
Vous dites une place, on pourrait dire un rôle, et c'est là où ça résonne encore plus avec le théâtre, en fait.
Absolument, absolument. Ouais. Ouais, un rôle de monter sur cette grande scène, voilà, de ne pas disparaître de la scène. On parle de la retraite quand les gens... voilà, quand on quitte le travail, on parle après des maisons de retraite, d'ailleurs. Là, ce ne serait pas une maison de retraite qu'il nous faut, c'est une maison ouverte sur le monde.
Ouais. Dernière toute petite question, en moins d'une minute, Bertrand Hagenmüller, donc ce film sort le 30, mercredi, on peut le voir à Paris et dans toute la France, il faut vraiment y aller. Et que sont-ils devenus vous les avez revus après?
Oui, bien sûr, ils ont vu le film. Alors malheureusement, deux d'entre eux, Didier et Antoine, sont décédés entre-temps. Voilà, mais tous les autres ont vu le film, les familles aussi ont vu le film. Elles ont été très émues de voir leurs proches de cette manière-là. Voilà, les soignants, évidemment, ont vu le film. C'était très beau aussi de se retrouver, de voir ça ensemble et de revivre un petit peu, en tout cas, ce grand moment de partage d'une rare intensité.
Merci. Merci pour ce film. Merci d'être venu avec nous sur Cause Commune aujourd'hui. À très bientôt et bonne suite. J'imagine que vous êtes plein de projets. Vous reviendrez nous parler de vos prochaines réalisations. Bertrand Hagenmüller, merci beaucoup et merci également à Gilles Brézard qui réalisait cette émission comme chaque lundi. On retrouve dans un instant Jérôme Sorel. Ce sera Rayon Libre sur notre antenne. Une émission qui parle de vélo, bien sûr. À la semaine prochaine.